Bonjour, c'est toujours un privilège d'être avec vous, de bien sûr de prêcher la parole. Florent nous a aidé la semaine dernière en abordant le sujet de la comparaison. D'un point de vue biblique. Bien sûr, on a tous l'habitude de se comparer, n'est-ce pas? On se compare aux autres, parfois c'est par orgueil, on veut se grandir. Parfois c'est l'envers, on se rabaisse, mais ce n'est pas ça non plus. En tout cas, on se compare. La comparaison est partout dans notre culture aujourd'hui, comme Florent l'a dit. Et en fait, ça touche quelque chose de profond, notre désir d'être élevé, d'être mis en avant. On cherche les compliments, on cherche l'admiration. On veut être au-dessus. On regarde autour de nous et on cherche la gloire qui vient quand on est reconnu. Et en fait, peut-être une partie de la raison pour ça, c'est parce que on a été créé pour vivre pour toujours. On a été fait pour recevoir la faveur. Et en fait, une certaine gloire que Dieu donne. Mais aujourd'hui, on cherche cette gloire ailleurs. On la cherche chez les autres. Et ça, c'est une gloire très horizontale. Et on voit ça partout. Et si on est honnête, pas seulement chez les autres, mais aussi en nous. Au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux, on veut qu'on nous remarque. On veut que nos idées gagnent. On veut être respecté, écouté, avoir de l'influence. Et on voit ça chez les jeunes sur les réseaux sociaux avec le phénomène des influenceurs. Le désir d'être connu, suivi, validé, devenir quelqu'un qui les autres regardent, admirent, veulent imiter même. Et pour d'autres, c'est dans le travail, monter les échelons, aller plus haut. Et quand on ouvre la Bible, on voit que tout de suite, le problème est là dès le début. Les premières page de la Bible, en fait. On voit cette tendance à l'orgueil. Pardon. Même la tentation de Satan, n'est-ce pas? Vous serez comme Dieu. Et quelques chapitres plus loin, plus tard, à Babel, les gens disent, on va se faire un nom. On va se faire un nom. L'orgueil est tellement central que Augustin disait que finalement tout péché est enraciné dans l'orgueil. Et quand on regarde l'Église, ce n'est pas aussi différent parfois. Et parce que l'Église, ce n'est pas un musée des gens parfaits, mais c'est un hôpital pour les pécheurs malades, comme vous et comme moi. On est tous pécheurs. Même si par la grâce de Dieu, on avance dans la sanctification et on reflète un peu plus sa sainteté, mais on lutte. On lutte encore, on lutte avec le péché, on lutte avec l'orgueil, on lutte avec la comparaison, avec l'ambition personnelle. On veut être remarqué et on pousse nos propres idées et tout ça, forcément, ça détruit l'unité dans l'Église. L'unité est bien sûr un thème important dans l'Épître aux Philippiens, surtout dans notre passage ce matin. Tournez avec moi à Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. J'aime vraiment ce livre, le livre de Philippiens. C'est une lettre très concrète, très pratique, qui touche directement la vie quotidienne de l'Église. Elle nous donne une image de l'unité qui est belle et facile à comprendre. Une image de l'unité. Et ce que j'aime surtout, c'est la façon dont l'unité est décrite dans ce livre. Dans Philippiens, l'unité n'est pas juste être en paix. C'est pas juste bien s'entendre. C'est pas juste on ne se dispute pas. Franchement, l'unité dans Philippiens est directement liée à une mission commune autour de l'Évangile. L'unité est liée à notre mission dans le monde. On dit souvent que le thème de Philippiens, c'est la joie. Et c'est vrai, la joie est très présente dans ce livre. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, le fil conducteur est surtout le partenariat dans l'Évangile. Paul en parle dès le début, au chapitre 1, verset 5. Il en reparle au verset 27 du même chapitre, quand il parle de combattre côte à côte pour l'Évangile, un texte qu'on a lu il y a quelques semaines avec Florent. Et il revient encore là-dessus au chapitre 4, verset 3, et en fait, plusieurs autres fois aussi, même quand il mentionne Timothée, il mentionne le fait qu'il travaille avec lui pour l'Évangile. Le cœur de l'être, le passage que Florent a prêché il y a deux semaines, c'est Philippiens 1, chapitre 1, verset 27 à 11, je crois. Ça, c'est vraiment le cœur de l'être. Et dans ce texte, Paul nous appelle à vivre d'une manière digne de l'Évangile. C'est-à-dire vivre d'une façon qui correspond à la grandeur de l'Évangile et qui la met en valeur. Autrement dit, il doit y avoir un lien entre la manière dont tu vis et les vérités de l'Évangile. Et on va voir comment ce passage rend cet lien très clair dans un moment. Paul nous appelle à tenir ferme dans un même esprit, en combattant côte à côte pour la foi de l'Évangile. Et à la fin de cette section, il parle de lutte, du combat. Il reconnaît que les lecteurs sont engagés dans le même combat que lui. On peut voir ça en verset 30 du chapitre 1. Mais ce n'est pas une guerre culturelle, ce n'est pas un combat contre des personnes, même s'il peut y avoir des gens qui s'opposent à nous, ça se passe, même dans cette église il n'y a pas longtemps. Le combat n'est pas contre eux, mais en fin de compte, c'est pour eux. Ça, c'est le combat de l'Évangile. C'est pour le monde. Alors, on combat, on lutte pour l'avancement de l'Évangile, même face à l'opposition. Mais de quoi a-t-on besoin pour cette mission que Paul explique dans ce livre. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et c'est intéressant, ce texte nous appelle à ce que ce texte nous appelle à vivre, c'est à la fois ce qui rend la mission possible et ce qui en découle quand l'évangile est au centre. Okay? Et cette chose-là, c'est l'unité. L'unité. Et à mon avis, ce passage, Philippiens 2, verset 1 à 11, est assez facilement découpé en trois parties. Verset 1 à 2, c'est l'appel à l'unité. L'appel à l'unité. L'idée ici est nous pouvons et nous devons vivre en plein écart. 3 à 4, la forme de l'unité. À quoi ressemble vraiment, à quoi ressemble concrètement l'unité dans l'Église? L'unité chrétienne. Et la fin, verset 5 à 11, ça c'est le fondement de l'unité, Jésus-Christ. Le Christ humilié et exalté, il est le modèle de notre pensée en tant que chrétien. Notre pensée. Et au fond, cette unité que Paul nous appelle, c'est une unité dans la manière de penser. Lisons le texte ensemble. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout d'abord, Paul fait appel à quatre réalités, chacune introduite de manière conditionnelle. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, tout ça. Et on pourrait les comprendre comme si Paul écrivait avec le mot « puisque ». C'est possible de comprendre comme ça. Puisqu'il y a de la consolation en Christ. Parce que ces réalités-là sont sûres, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un soulagement dans l'amour. Puisqu'il y a une communion de l'esprit. Et tout ça. Puisque tout ça est vrai, faites ceci. Mais on peut aussi comprendre ces paroles comme une série de questions qui mènent à une conclusion. Et on fait ça en tant que parent, parfois. En tout cas, je le fais. On pose des questions qui amènent notre enfant à tirer lui-même la conclusion. Okay? Même ce matin, j'ai fait ça. Quelque chose comme ça. Tu peux demander à ton frère, ton fils, ton fille, tu aimes ta sœur? Tu aimes ton frère? Oui, je crois. Et quand tu t'entends bien avec ton frère ou ta sœur, tu t'amuses plus? Oui, c'est vrai. Et les jours où tu décides de bien t'entendre avec lui, avec elle, tu passes une meilleure journée, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Alors, on s'en souvient et aujourd'hui, on le met en pratique. On fait des choses comme ça parfois, au moins je fais. Et Paul fait quelque chose de semblable ici. Paul nous demande, y a-t-il de la consolation en Christ? Et on pense, oui, bien sûr. Et l'encouragement, le soulagement, est-ce que ça te réconforte de savoir que Dieu t'aime? Oui, bien sûr. Et la communion de l'esprit. Est-ce que tu partages le même esprit que tous les autres croyants autour de toi, de vous? Oui, absolument. Paul pose ces questions pour amener ses lecteurs à être d'accord, afin qu'ils soient disposés à répondre positivement à ce qu'il va leur dire ensuite. Ça, c'est l'idée. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. La joie de Paul est bien réelle ici, dans ce passage, mais elle n'est pas encore complète. Un peu plus loin, je pense que c'est chapitre 4 peut-être, il appelle les Philippiens ma joie et ma couronne, quelque chose comme ça. On voit clairement que l'église de Philippiens aime Paul tellement. Et Paul leur parle ici de manière très personnelle. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie complète. Rendre sa joie parfaite, comment? La réponse, c'est en vivant dans l'unité. En vivant dans l'unité. L'idée centrale, c'est d'avoir une même pensée, de vivre dans un plein accord. Les autres expressions, le même amour, en même âme, une même pensée, viennent développer et préciser cette idée centrale dans le texte. Okay? C'est, si je dis à mon fils, range ta chambre, range tes jouets, fais ton lit, vide la poubelle. C'est pas vraiment quatre ordres. Le premier donne l'idée générale. Range ta chambre et tous les restes. Ça explique concrètement ce que ça implique, n'est-ce pas? Et c'est la même chose ici. J'aime vraiment la façon dont le second 21 rend ce verset. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et ensuite, elle ajoute, ayez le même amour, un même cœur, une même pensée. L'idée, c'est d'avoir la même intention, le même état d'esprit, une vie tournée vers un seul objectif. En tant qu'Église, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et ça pose une vraie question. Être d'accord sur quoi exactement? Sur tout? Sur chaque détail théologique, même les plus minutieux? Sur chaque décision pratique? Sur chaque préférence? Et des sujets même d'extérieur de l'Église, sur la manière d'élever les enfants, sur la politique, sur les goûts musicaux, évidemment non. Alors sur quoi? Sur quoi précisément? Et dans l'épître aux Philippiens, le centre, l'unificateur, c'est l'Évangile. C'est le partenariat dans l'Évangile qui façonne cette unité de pensée. L'Évangile occupe une place centrale dans toute la lettre. Rappelez-vous quand Paul parle de son emprisonnement en chapitre 1. Quel état d'esprit, quel est son état d'esprit? Même en prison, et même quand certains annoncent Christ par envie et par esprit de dispute, Paul se réjouit. Il se réjouit parce que Christ est annoncé. Il remarque même que son emprisonnement a contribué au progrès de l'Évangile. Paul a été profondément captivé par l'Évangile, par l'amour de Dieu. Et quand Paul parle d'avoir le même amour dans notre passage ici, je pense qu'il renvoie à l'amour mentionné au verset 1. L'amour que nous avons reçu en Christ. Si nous avons reçu cet amour, et si on est sauvé, c'est évidemment vrai, si nous avons reçu cet amour, nous sommes appelés à le refléter les uns envers les autres. Quand cela arrive, l'unité en découle. Voilà donc l'appel à l'unité. Paul passe maintenant à la forme de l'unité. À quoi ressemble concrètement cette unité? Regardez avec moi le verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul commence par dire ce que l'unité n'est pas. Un auteur que j'ai lu dit « Le contraste est la mère de la clarté ». Donc, Paul met le contraste ici. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. La traduction esprit de parti n'est pas peut-être la meilleure ici. Ce mot ne parle pas de faction, mais de quelque chose de plus personnel. C'est l'avancement personnel. Une ambition égoïste même. La nouvelle Bible seconde le rend par ambition personnelle. Ces deux mots, ambition personnelle et vaine gloire, pris ensemble, parlent d'une même désir. Vouloir monter, vouloir être remarqué, vouloir être reconnu, vouloir recevoir la gloire des autres. Et ça c'est Babel, en Genèse 11. Faisons-nous un nom. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est aussi nous. Quand on prend une photo de groupe, on fait quoi? Tout de suite, on se cherche, parfois. Et si on ne se trouve pas bien, on veut supprimer les photos. Peu importe, tout le monde est superbe. On s'en fiche. Ou encore, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est une occasion de faire bonne impression, n'est-ce pas? Et si on ne rate pas le coup, peut-être la personne nous aimera. Peut-être qu'elle dira du bien de nous à d'autres. Chaque, personne devient alors un potentiel glorificateur de moi. Ça, c'est l'ambition personnelle, l'esprit de rivalité. Et Paul passe au positif. Regardez avec moi la fin du verset 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La vraie unité se voit dans l'humilité. Quand on considère les autres comme plus importants que soi. Et il faut bien comprendre à quel point c'était choquant à l'époque. Avant Jésus, le mot ici traduit par l'humilité était le plus souvent utilisé dans des contextes païens avec une connotation négative. Ce n'était pas considéré comme une vertu à l'époque. Il évoquait l'idée d'être doux, modeste, effacer, être humble, c'était être faible, peu respecté. C'était quelque chose de honteux. Cela faisait penser à un esclave, en fait, ce mot. Mais Jésus arrive avec un royaume complètement à l'envers. Alors, écoutez ce que Jésus dit à Marc 10, verset 42 à 45. Vous pouvez tourner là si vous voulez. Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Et il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. C'est radical. Dans le monde antique, les souverains, les rois, les empereurs, était souvent divinisé et adoré même. On leur devait une loyauté totale, sinon on risquait d'être écrasé. C'est ça le monde antique. Et aujourd'hui, au contraire, on admire des responsables proches des gens, des jeunes, n'est-ce pas? Des dirigeants qui se salissent les mains, qui servent et travaillent pour le bien des citoyens. Mais avant Jésus, une telle vision était radicale. Platon, dans son livre La République, comparait les classes sociales à différents types de métaux. Selon lui, certains étaient faits pour gouverner et autres pour être esclaves. L'humilité à laquelle Jésus appelle et l'humilité que Jésus a lui-même incarnée était totalement radicale à l'époque. Puis, le verset 4 nous dirige aussi vers un point important. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'idée, ce n'est pas de se répasser au maximum. Paul ne dit pas « déteste-toi » ou « assieds-toi et pense à quel point tu es mauvais ». Ce n'est pas l'idée ici. Il dit plutôt « déplace votre regard ». Comme l'a dit un auteur bien connu, l'humilité n'est pas de penser moins de soi, mais de penser à soi moins souvent. En fait, l'humilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler directement. Il faut y arriver un peu de côté. Si tu essaies de devenir humble de manière frontale, le risque, c'était de finir fier de son humilité. Le vrai objectif, c'est plutôt d'arrêter de se regarder soi-même, d'apprendre à penser davantage aux autres, à leurs entrées. Et même plus que ça, notre imagination doit être captivée par quelque chose de plus grand, de plus glorieux que nous. Et ça, c'est exactement ce que Paul nous amène au verset 5 à 11. Jésus, le fondement et l'exemple de l'humilité. Lisez avec moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme en proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant en forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors qu'on arrive à la fin et qu'on regarde le fondement de l'unité, je pense que ça vaut vraiment un coup de faire un pas en arrière, de prendre le temps de voir à quel point ce passage est important et de se rappeler dans quel contexte il a été écrit. Voilà pourquoi ce texte est l'un des passages les plus importants de la Bible sur la personne de Jésus, sur le Christ. C'est de la doctrine majeure, centrale de la Bible. Et si on voulait vraiment étudier qui est Christ, qui est Jésus, c'est un texte sur lequel on passerait beaucoup de temps. Mais le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est quoi? Le contexte n'est pas un traité systématique de christologie. Le contexte, c'est une dispute entre deux femmes. Et bien sûr, je plaisante un peu, mais pas trop. Je fais référence à Évodie et Sintach. Oui, c'est ça. Au chapitre 4. Le contexte, c'est une situation de désunion dans l'Église. Et le point est clair. La théologie compte. La théologie est profondément pratique. Ce texte tellement riche est donné pas comme en théologie systématique, mais pour les raisons très pratiques dans l'Église. On a déjà parlé de cette idée d'être attiré, capté par une gloire plus grande que nous-mêmes, d'avoir notre imagination façonnée par quelque chose de plus grand. Et ça rejoint directement notre désir de gloire dont on a parlé au début du message. Et justement, notre texte se termine par la gloire de Dieu. On a tous été créés pour vivre éternellement, comme je disais tout à l'heure. Et on a tous été créés pour glorifier Dieu, pour refléter sa gloire. Et la Bible parle même d'une gloire que les croyants recevront de Dieu. En Jean l'évangile de Jean, chapitre 17. En fait, c'est un moment même où Jésus prie pour l'unité. Et il dit qu'il a donné à ses disciples la gloire que le Père lui a donnée. C'est incroyable. On parle souvent de la glorification future du croyant. Et Philippiens en parle aussi. Chapitre 3, versets 20 à 21. Regardons ce texte ensemble, en fait. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendre semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, pardon. En fait, beaucoup d'exégètes, beaucoup qui étudient la Bible en profondeur, remarquent qu'il y a des vrais parallèles entre ce verset et notre passage. Donc oui, il y a une gloire qui nous attend. Mais on n'y arrive jamais en cherchant la gloire. Et ça, c'est un point super important. On n'arrive jamais à cette gloire en cherchant la gloire. C'est même tout l'inverse. Et ce qui est frappant, c'est que c'est exactement ce qu'on voit chez Jésus dans ce passage. Oui, au verset 9, Jésus est élevé au plus haut point. Il reçoit le nom au-dessus de tout nom. Il est glorifié. Mais comment est-ce que ça arrive dans le texte? Par l'obéissance humble. Regardez encore le verset 5 avec moi. Paul nous dit: pensez comme Jésus a pensé. Le mot sentiment dans le second 1910 n'est pas idéal, mais l'idée est claire. On est appelé à adapter la manière de penser de Jésus. Il existait en forme de Dieu. Pas juste comme Dieu, mais pleinement Dieu dans sa nature. Le texte dit qu'il était égal à Dieu. Regardez avec moi verset 6. Égal. Il a égalité avec Dieu. Et pourtant, il n'a pas utilisé cette égalité pour se servir lui-même. Il a refusé d'en tirer un avantage personnel. On voit déjà ça dans les tentations au désert. Verset 6. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Franchement, je comprends pas trop cette phrase en français, mais le semeur dit, ne cherchez pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Le 21. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bouton préservé. C'est-à-dire, pendant toute sa vie, il a vraiment vécu comme un homme. Il n'a pas pris de raccourci pour éviter la souffrance. Il s'est vidé lui-même. Verset 7. Ça, c'est l'idée ici. Il s'est vidé lui-même, pas en abandonnant sa divinité, pas du tout, mais en prenant la place d'un serviteur. Il est venu pour servir. Ça, c'est l'idée. Une vieille traduction anglaise dit ça à peu près comme ceci. Il s'est rendu sans réputation. on arrête de protéger notre image, notre réputation, et on se met à servir. Regardez avec moi rapidement. Chapitre 1, verset 20. Vous avez remarqué comment Paul parle de la honte et de l'honneur dans cette lettre. Chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais, voici le contraste, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Quel est l'opposé de la honte pour Paul dans ce verset? C'est sa gloire? C'est son honneur? C'est la gloire du Christ. Christ sera glorifié. On se met au service les uns les autres, et on avance ensemble côte à côte pour que l'évangile progresse. Et c'est ça l'unité. L'unité dans le livre de Philippiens. C'est comme dans Jean, l'évangile de Jean, verset 13. On voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Il prend la place d'un serviteur. Et c'est précisément à travers ce service, cette obéissance, cette humilité que Dieu l'a élevé très haut. La gloire passe par l'humilité. La gloire passe toujours par l'humilité. Mais arrivons à la fin avec quelque chose de très clair ce matin. Jésus n'est pas venu seulement pour nous montrer un exemple. Si c'était le cas, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Franchement, ce serait juste une exigence de plus, un modèle impossible à attendre. Le verset 8 nous montre jusqu'où Jésus est allé. Il a obéi jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Et cette mort, c'était pour notre pardon. Pour toutes les fois où on n'a pas vécu comme on aurait dû. Ce que la Bible appelle le péché. On a tous échoué. Tout le monde ici a échoué. Et échouerait encore. Si Jésus était venu seulement pour être un exemple, ce serait une très mauvaise nouvelle. Mais Jésus est venu avec grâce pour sauver ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne peuvent pas suivre parfaitement son exemple. Ça, c'est nous tous. Il offre le salut. Le salut à ceux qui mettent leur confiance en lui. Il offre le pardon. Et pour ceux qui ont déjà reçu le pardon par la foi en Christ, il donne le Saint-Esprit qui vit en nous et agit en nous, qui fait apparaître la gloire de Christ dans nos vies et dans notre Église, qui nous aide à devenir plus humbles, qui nous aide à servir les autres, qui nous aide à arrêter de nous regarder nous-mêmes et fixer nos yeux sur Jésus et sur notre prochain pour son bien. Paul nous appelle à une vie marquée par l'Évangile, mais aussi une vie rendue possible par la puissance de l'Évangile. Sans la grâce de Dieu à l'œuvre en nous, tout cela est impossible. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre d'une manière qui reflète l'humilité de Jésus. Nous pouvons marcher d'une manière digne de l'Évangile en vivant dans l'unité pour la mission commune de faire avancer l'Évangile dans le monde. Par la grâce de Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci que tu es parmi nous ce matin. Merci pour l'exemple de Jésus et son humilité. Merci. Aide-nous. On a besoin de toi chaque jour. On a besoin de toi chaque heure même. Aide-nous à vivre en tant qu'Église, de vivre en humilité, pas en regardant soi, mais en regardant les autres, en regardant le Christ. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et on prie en le nom de Jésus. Amen.